Chapitre 27. La fréquentation des araignées guérira quiconque d'une vision sentimentale de la nature. Tiré de l'article Spider-Woman. Burkhard Bilger, New Yorker, 5 mars 2007. Le dîner ne fut pas gai. Kimberly fit trop cuire la viande, brûla la sauce et se rappela pourquoi elle s'en tenait au plat à emporter. Son père et Rainey essayèrent de prendre la chose avec gentillesse. Ils la complimentèrent sur les haricots réchauffés au micro-ondes et déplacèrent des bouchées d'escalopes de poulet dans leur assiette en faisant semblant de manger. Si l'absence de Mac les intriguait, ils n'en disaient rien. Et Kimberly n'avait pas envie d'en parler. Qu'avait-il à dire, d'ailleurs? Il travaillait tard, ça arrivait tout le temps. Nous sommes allés à l'aquarium aujourd'hui, attaqua Rainey avec résolution. Un endroit vraiment étonnant. J'ai particulièrement aimé caresser les pastenagues. Dit Kimberly. Et toi, Quincy, qu'est-ce que tu as préféré? Le père de Kimberly ouvrait de grands yeux, un cerf pris dans les phares. Les bélugas. Oui, ils sont magnifiques aussi. Et tellement joueurs, je n'en avais aucune idée. Répéta Kimberly. Je me disais qu'on irait au musée Coca-Cola demain. Avant de venir ici, je n'avais jamais réalisé qu'un état tout entier pouvait vouer un culte au soda. Qu'est-ce que tu en dis, Quincy? Ça m'a l'air super, répondit-il en se calquant sur l'enthousiasme forcé de sa femme. Kimberly posa sa fourchette. Papa, comment était maman quand elle était enceinte? La question arrêta net la conversation. Pardon? Demanda Quincy. Est-ce qu'elle avait des nausées matinales, la peau marbrée, des sautes d'humeur? Ou bien est-ce que c'était une de ces femmes enceintes toutes rayonnantes dans l'attente de leur future maternité? Est-ce qu'elle tricotait des petits chaussons, décorait les murs au pochoir, dressait des listes de noms à n'en plus finir? Ta mère, tricotée, est-ce qu'elle était heureuse? Est-ce que vous aviez tout bien organisé pour la naissance d'Amanda? Maman resterait à la maison, tu prendrais un congé. Vous alliez décorer la chambre d'enfant ensemble. Bercer le petit bout de chou à tour de rôle. Kimberly, sincèrement, ça remonte à plus de 30 ans. Mais tu dois bien te souvenir de quelque chose. N'importe quoi. Allez, papa, je poserai bien la question à maman, seulement tu vois, elle est morte. Quincy ne répondit rien. Kimberly ferma les yeux, honteuse de son propre emportement. De cette émotion venue nulle part qui lui nouait désormais la gorge. Elle aurait dû s'excuser, dire quelque chose. Mais elle ne pouvait pas parce que si elle ouvrait la bouche, elle fondait en larmes. Mais elle ne pouvait pas parce que si elle ouvrait la bouche, elle allait fondre en larmes. Son père prit une inspiration. Je suis désolée, Kimberly, dit-il calmement. Je sais que tu te poses des questions. Et j'aimerais y répondre, vraiment. Mais pour te dire la vérité, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la naissance de Mandy, ni même de la tienne. Je crois que quand ta mère attendait Amanda, je travaillais sur une série de braquages de banque dans le Midwest. 4 hommes dans une camionnette blanche, qui aimaient donner des coups de crosse aux guichetières, même quand elles coopéraient. Je me rappelle avoir interrogé les témoins oculaires les uns après les autres pour me faire une idée de leur mode opératoire. Et je me rappelle avoir découvert, en entrant dans la 9e banque, que cette fois-ci, ils avaient descendu la caissière d'une balle entre les deux yeux. Heather Norris, elle s'appelait. Une mère célibataire de 19 ans. Elle venait de se faire embaucher à l'agence pour financer ses études. Voilà ce qui m'a marqué. Quant à ta mère et ce qu'elle vivait, elle te détestait, constata Kimberly. À la fin, oui. Et il y avait de quoi, je dirais. Tu la détestais? Jamais. Et Mandy et moi, 2 autres filles qui venaient perturber ton précieux travail. Amanda et toi êtes 2 des meilleures choses qui me soient jamais arrivées. Kimberly le vit serrer la main de Rainey. Cela n'améliora pas son humeur. « Oh, bien sûr, tu dis ça maintenant. Mais à l'époque, quand tu traitais une centaine d'affaires de meurtres d'enfants et de mutilations de femmes par an, chacune exigeant toute ton attention, et que nous étions là, à exiger que tu rentres dîner, que tu viennes voir la pièce de fin d'année, que tu assistes au concours des jeunes talents, comment pouvais-tu ne pas être irritée? Comment pouvais-tu ne pas t'agacer de toutes nos demandes sans importance? Elles n'étaient jamais sans importance. Mais si, parfois, comment tout concilier? Comment trouver assez de temps et d'énergie, assez d'amour? Comment être toujours disponible pour tout le monde? Son père garda le silence un moment. Tu savais que ta mère travaillait avant votre naissance, demanda-t-il à brûle-pourpoint. Ah bon? Oui, elle travaillait dans une galerie. Elle avait une maîtrise des beaux-arts. Elle espérait devenir conservatrice de musée un jour. C'était son rêve. Et là, elle est tombée enceinte. Les choses étaient différentes à l'époque, Kimberly. Ta mère et moi avions toujours pensé qu'elle resterait à la maison avec les enfants. Il ne nous est jamais venu à l'idée de faire autrement. Même si, avec le recul, on aurait peut-être dû. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Son père haussa les épaules, choisit visiblement ses mots avec soin. Ta mère était une femme brillante, créative. Elle avait beau vous aimer, ta sœur et toi, la vie de mère au foyer, c'était dur pour elle. Pas aussi épanouissant qu'elle l'avait espéré. Et puis, avec mes absences continuelles, je pense que c'était parfois plus facile pour elle de me rendre coupable de sa frustration. J'adorais ce que je faisais. Et elle, non. Tu l'aurais laissé reprendre le travail? Je ne sais pas. Elle n'a jamais posé la question. Et je n'étais jamais assez longtemps à la maison pour me rendre compte à quel point elle était malheureuse. Jusqu'au jour où il a été trop tard, évidemment. Je ne sais pas comment faire, murmura Kimberly, une main posée sur son ventre. Je croyais que si, mais me voilà à 5 mois de grossesse et d'un seul coup je comprends plus rien. Comment être une épouse, une policière, sans parler d'être mère? Je n'ai même pas encore ce bébé et je suis déjà nulle. J'aimerais pouvoir te dire quelque chose, Kimberly, mais dans la vie, il n'y a pas de recette universelle. Ce sont les questions que tu dois te poser. Les problèmes que Mac et toi allez devoir résoudre. Tout ce que je peux dire en tant que parent, c'est que je crois avoir commis toutes les erreurs qu'un père peut commettre et que je me suis quand même retrouvée avec une fille vraiment épatante. Kimberly secoua la tête. Elle savait qu'il disait cela gentiment. Elle aurait voulu accepter le compliment de bon cœur. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si Mandy en dirait autant. Et le souvenir de sa sœur, morte à 23 ans, lui fendit de nouveau le cœur. Kimberly attendit l'heure du coucher pour évoquer le coup de fil. 5 mois plus tôt, elle aurait parlé de ses menaces de mort à Mac. Ils auraient tous deux traité la chose par le mépris, car ils en avaient chacun reçu leur part. Mais aujourd'hui, elle ne pensait pas pouvoir en discuter avec Mac, et elle en parla donc à son père. Il aborda le problème avec son pragmatisme coutumier. Que sais-tu de la personne qui t'a appelé? Rien. Ne dis pas de sottises, fais un effort. Tu as parlé 3 fois avec cet individu. De quoi largement en apprendre. Ça y est, elle se souvenait. Son père ne plaisantait jamais. Il a accès à un ordinateur, à une carte de crédit. Et il s'y connaît suffisamment en matière d'Internet pour usurper un numéro. D'accord? Il connaît le numéro du standard du FBI. Bon, rien de sorcier vu que ça se trouve dans l'annuaire. Cela dit, songea-t-elle ensuite, il connaît aussi mon numéro de portable, ce qui est plus difficile à obtenir. Quoi d'autre? On aurait dit un homme, mais c'est peut-être parce que la voix était déformée. Mais j'ai l'impression qu'il est jeune. Certaines des expressions employées, la bouderie, la colère diffuse. Un adolescent à vue de nez. Excellent. Il a un petit accent régional, donc je dirais qu'il est d'ici. Les appels ont eu lieu en soirée, aux petites heures de la nuit et maintenant en journée. Donc quelqu'un qui a un boulot ou un emploi du temps souple, voire pas de boulot du tout. Ce qui concorde avec ta théorie de l'adolescent.
Oui.
Le mobile, pourquoi cherche-t-il à entrer en contact? Pourquoi avec toi? Kimberly dut y réfléchir. Au début, quand il m'a fait écouter l'enregistrement de Veronica Jones, j'ai cru qu'il voulait aider. Qu'un individu, peut-être lui-même victime, cherchait à attirer l'attention sur ce qui s'était passé pour que Dinekara soit puni. Le deuxième appel ressemblait aussi à un avertissement. Quelqu'un qui essayait encore d'aider. Et puis nous savons qu'un proche de Dinekara transmet des enveloppes contenant les permis de conduire des disparus, peut-être des trophées. Il est possible que celui qui a appelé soit à l'origine de ces enveloppes. Première tentative de communication qui malheureusement n'a pas suffi. Et l'appel d'aujourd'hui ? De la colère, répondit Kimberly sans hésitation. Il était hors de lui, comme si je l'avais personnellement trahi. Peut-être parce que lui a fait un effort, mais que je n'ai pas, comme par magie, obtenu une arrestation. Je ne suis pas sûre. Mais ce soir, le ton avait changé. Je ne suis plus son alliée. Je suis devenue sa cible. Sur le visage de Quincy flottait un semblant de sourire. Attitude typique d'un adolescent. Exactement. Il s'arrêta, pensif. Est-il possible que notre individu soit encore en contact avec ton meurtrier ? Peut-être que le meurtrier lui-même a modifié la dynamique de la relation. Tu dis que l'individu veut réussir son examen de passage et que, pour ce faire, affirme-t-il, il doit te tuer. Exact. Peut-être parce que c'est un ordre du meurtrier. Ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi toi ? Est-ce parce que l'individu a reçu la consigne de tuer spécifiquement l'agent spécial Kimberly Quincy ? Ou bien un agent de police ? Ou une femme ? Moi spécifiquement, répondit lentement Kimberly. Depuis le tout début, l'individu sait que je travaille sur l'affaire Dinekara. Alors je ne crois pas qu'il m'ait choisi par hasard. C'est parce que je travaille sur cette affaire. C'est grâce à cela que lui ou elle connaît mon existence. Des suspects plausibles ? Ginny Jones. Elle connaît mon numéro de portable, m'a rencontré au sujet de cette affaire et sait ce qui est arrivé à la fois à sa mère et à Tommy Mark Evans. Et, ajouta-t-elle songeuse, elle a une bonne raison de m'en vouloir étant donné ce qui s'est passé entre elle et Dinekara hier soir. Quels que soient les problèmes que Ginny espérait résoudre en s'adressant à la police, je pense que ça ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Mais pourquoi s'enquiquiner à usurper un numéro ? Nous nous sommes déjà rencontrés en face à face. Il n'y a rien dans les appels qu'elle n'aurait pas pu me dire elle-même. Timidité ? Oh, ça m'étonnerait. Peur ? Je pense que le risque est plus grand de me contacter par téléphone plutôt que de tout dire en direct. Mais bon, une fille comme elle va savoir. Tu crois que les menaces étaient sérieuses ? Tu as l'impression que ta vie est en danger ? Elle se mordilla la lèvre, ne sachant trop quoi répondre. Ça fait froid dans le dos d'être menacée. Mais est-ce que tu as l'impression que ta vie est en danger ? J'en suis pas certaine. Il y a une grande différence entre s'attaquer à des prostituées et prendre une fédérale pour cible. Là encore, c'est une manœuvre. Ginny, les appels. Je me fais l'effet d'un pion qu'on déplacerait sur l'échiquier pour des raisons que j'ignore. Et c'est ça surtout qui m'inquiète. À supposer que je ne sois pas la cible principale, je pourrais quand même devenir une victime collatérale. Tu as fait un rapport à ton supérieur ? Je lui ai laissé une note avec une copie de la cassette ce soir. À ton avis, que va-t-il recommander ? J'espère de toutes mes forces qu'il acceptera enfin de former une cellule d'enquête. L'individu a tout de même laissé échapper qu'il ou elle sait quelque chose sur Tommy Mark Evans. Et ça, c'est un meurtre non élucidé pour lequel on a un cadavre, non d'un chien. Peut-être que ça va enfin débloquer les choses parce qu'il faut le reconnaître, la pauvre Ginny a failli se faire démolir la figure pour rien. Et ça me fait vraiment chier. Je te reconnais bien là, dit Quincy. La remarque arracha finalement un sourire à Kimberly. Je crois que ça, elle tient une piste, reprit-elle sérieusement. Je crois que Dinekara a supprimé des prostituées. Ginny en a réchappé, elle a eu de la chance. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour les autres. Je veux les retrouver. Je veux qu'elles rentrent chez elles. Et ensuite, je veux clouer ce type au mur. Étant donné ce que vous avez déjà appris grâce à la chaussure, j'irai dans la forêt avec des chiens détecteurs de cadavres. Ben voyons, sur 300 000 hectares, c'est l'affaire d'une journée avec 2-3 chiens. Ce côté sarcastique, tu le tiens de ta mère. Ne rêve pas. Cela dit, Harold a une vieille copine arachnologue. Il nous a organisé un rendez-vous à la première heure demain matin. En temps normal, je n'attacherais pas trop d'importance à l'analyse d'une mue d'araignée, mais vu les goûts de Dinekara, je peux venir. Oh papa, et que devient Miss Coca-Cola World ? Et son père de répondre gravement, « Je t'en supplie, à genoux. » Kimberly veilla après que Rainey et Quincy se furent retirés, regarda les programmes de fin de soirée dans son lit en attendant Mac. À 1 h du matin, elle n'y tint plus. Elle se massa le bas du dos, examina ses pieds légèrement enflés, décida qu'elle avait encore grossi depuis la veille et qu'il était vraiment l'heure de dormir. « Faites beau rêve, bébé McCormack », murmura-t-elle à son ventre avant d'éteindre la lumière et de remonter les couvertures. Le sommeil ne fut pas tendre avec elle. Elle se retrouva à courir dans une maison ensanglantée qu'elle reconnaissait vaguement pour avoir vu les photos de scènes de crime après le meurtre de sa mère. Elle cherchait désespérément Bethy. Il fallait qu'elle voie sa mère. Elle avait tant de choses à lui dire. Mais alors elle entendit les vagissements d'un bébé et sut que ce n'était pas sa mère qu'elle avait perdue. Elle courait pour retrouver son bébé. Elle suivait les cris dans la maison, les traînées de sang. Puis, fantomatique, un berceau en osier blanc se profila devant elle. « Chut !» lui dit la voix de Mac. « Chut ! Tout va bien, Kimberly. C'est juste un mauvais rêve. Ne t'inquiète pas, chérie, je suis là. » Elle s'accrocha à lui, sentit ses bras autour d'elle qui l'enveloppaient dans la chaleur réconfortante de son torse. Mais elle n'arrivait pas à s'arrêter de trembler. Même dans les bras de son mari, elle ne se sentait pas en sécurité. Le téléphone sonna. Une fois, deux fois. La troisième fois, elle arriva enfin à refaire surface. Le réveil lumineux indiquait 5 h du matin. Mac dormait, le dos tourné. Le portable de Kimberly carillonna à nouveau à côté du lit. Mac, groggy, se mit à bouger lorsqu'elle s'en empara. Elle consulta l'écran, puis le porta à son oreille. « Ça t'arrive de dormir, sale ?» Elle a disparu, répondit simplement celui-ci. Jackie n'a jamais pu la localiser hier soir. Pour finir, on est passé ce matin, l'appartement a été déménagé. Ginny Jones s'est envolée.